Merci de votre fidélité à Radio Mayuri Campus. J'accueille Agnès Drago. Vous publiez votre premier ouvrage intitulé Touche pas à ma petite enfance. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, cet ouvrage, c'est un témoignage qui retrace votre parcours professionnel. Vous avez voulu partager cela avec le plus grand nombre, ce qui n'était pas forcément l'idée hein, de base, en tout
Tout
cas à
à
la
fait,
base.
tout à fait. C'est vrai que j'ai voulu le partager et dans un premier temps, l'idée était de le partager avec les proches, donc les parents, la famille, et puis finalement, de fil en aiguille, et puis conseillé également par la maison d'édition qui m'a encouragée, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, effectivement, c'est un sujet qui touche tout le monde. On parle de petite enfance, donc voilà la raison pour laquelle actuellement je me lance, et c'est avec beaucoup de plaisir que je présente cet ouvrage.
On va revenir au livre, mais avant tout, parlons un peu de vous. À la base, vous êtes guyanaise, mais vous avez vécu très longtemps hors du territoire où vous avez évolué dans le sud de la France, principalement.
Tout à fait. En région parisienne, puis ensuite, effectivement, dans le sud de la France.
Vous y avez fait des études et travaillé pendant quelques années.
Alors, j'ai fait effectivement des études. J'ai également travaillé. J'ai eu la chance, parce que c'est aussi une chance de pouvoir travailler également ailleurs. Donc, j'ai travaillé pour la commune de Marseille, sur des grosses crèches au niveau de la petite enfance, mais également dans le Gard, dans une communauté de communes, donc un petit village à l'Est. Et puis, d'autres expériences, notamment à Neuville-aux-Bois, aussi dans le Loiret. Et puis en Guyane, voilà, en Guyane où je suis de retour depuis 7 ans maintenant.
Et comment est née cette envie, je peux même parler de passion pour les enfants?
Alors, je vais pas être très originale, mais je vais quand même vous donner la réponse. Depuis toute petite, voilà. Depuis toute petite, je savais que je voulais travailler avec des enfants. Alors c'est une phrase un peu bateau, mais chez moi, elle a tout son sens parce que dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire du babysitting. Je prenais plaisir à m'occuper des enfants. Et en tout cas, j'ai toujours su que je travaillerais avec des enfants. En tout cas, c'était ma volonté première de pouvoir évoluer avec les enfants. Voilà, ils m'attiraient, j'étais attirée également par eux. Ils m'intriguaient, leurs mimiques, leurs réactions. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai d'abord travaillé d'ailleurs en école maternelle, dans le cadre des emplois jeunes, quand je suis revenue sur la Guyane. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une éducatrice de jeunes enfants, Jacqueline Sinclair, qui était d'ailleurs, enfin qui est d'ailleurs quelqu'un de formidable, puisque c'est vrai elle a pu m'orienter et elle m'a dit, voilà, elle m'a dit, voilà, il y a l'école, l'Institut de formation sociale qui organise des sessions. Et je me suis rendue, et effectivement, il y avait la formation d'éducateur de jeunes enfants sur, à l'époque, c'était 2 ans et 6 mois. Maintenant, c'est beaucoup plus lent, c'est 3 ans. Mais voilà, j'ai passé le concours d'entrée, je l'ai réussi. Et voilà, j'ai hésité à un moment donné entre l'éducation nationale et le secteur social, notamment avec cette formation d'éducateur. Et puis finalement, je suis restée sur cette lancée des métiers de la petite enfance et du social.
Alors, dans votre ouvrage, dès la première page, vous parlez de l'amour, le mot amour revient souvent. C'est un métier, il faut aller plus loin du mot métier, il faut parler de vocation quand on évolue auprès des enfants.
J'ai envie de vous dire oui. Oui, parce que les enfants, c'est un public vulnérable. D'ailleurs, les enfants sont considérés comme des personnes, au même titre que les personnes âgées, comme un public vulnérable. Et effectivement, je pense que soit effectivement, il faut que ce soit une vocation, ou soit alors, il faut au fur et à mesure que ça devienne une passion. Je pense que c'est vraiment important parce que, comme je dis souvent, et d'ailleurs je le dis également dans cet ouvrage, les parents nous confient quand même ce qu'ils ont de plus cher. C'est pas rien, c'est une grosse responsabilité. Et nous, professionnels, nous qui avons choisi, parce que pour moi ça doit être un choix, qui avons choisi d'accompagner ces enfants, d'accompagner ces familles, Nous nous devons d'être à la hauteur de leur confiance.
Cet ouvrage, vous l'adressez aux professionnels qui font le même travail finalement que vous, ou les parents peuvent également s'y inspirer?
Alors très sincèrement, cet ouvrage, il est vraiment tout public. Moi, sur la métropole, j'ai des mamies qui sont entrées en contact avec moi via les réseaux sociaux pour me dire qu'elles avaient découvert l'ouvrage, qu'elles l'avaient vu, qu'elles l'avaient lu et qu'elles étaient ravies. Parce qu'effectivement, à l'époque, si vous voulez, au niveau des crèches, il y a eu beaucoup de mamans gardaient les enfants, les élevaient, hein, c'était dans notre processus, dans l'éducation. Et c'est vrai qu'à travers ce livre, j'ai eu beaucoup de retours et j'ai été très surprise d'ailleurs de l'intérêt de cette tranche d'âge, parce que vous savez, les choses sont très modernes maintenant et vous voyez à peu près effectivement la tranche d'âge des personnes qui vont effectivement en tout cas être intéressées. Et j'étais très surprise de voir que j'avais beaucoup de personnes âgées entre 40 et puis, comme je vous disais, des mamies aussi, des grand-mères qui me faisaient des retours très sympathiques sur le fait qu'elles avaient découvert cet ouvrage et qu'elles avaient adoré. Alors bien évidemment, quand je dis ça touche tous les âges finalement, les jeunes qui, surtout les jeunes qui, j'ai envie de dire, souhaitent embrasser ces carrières. Alors c'est vrai qu'en Guyane, j'assiste beaucoup, c'est vrai qu'on est le département où le taux de natalité est le plus important de France.
3,1 enfants.
Voilà, exactement. Mais en contrepartie, on a beaucoup d'intérêt auprès des jeunes. Sauf qu'elles n'ont pas véritablement, je dirais, toutes, et c'est un peu normal aussi, c'est l'âge, donc c'est à nous de les accompagner, de leur montrer. Mais c'est vrai que souvent, on a des jeunes filles qui se présentent, qui nous disent, voilà, moi je veux travailler avec les enfants, j'aime bien les enfants, j'ai un petit frère, j'ai une petite sœur. Et puis, ils pensent que ça va être suffisant. Sauf que très souvent, au bout de quelques jours de stage, voilà, ils vont me dire, madame, finalement, c'est pas ce que je pensais, c'est plus difficile, ils sont plus nombreux, ils sont chimériques, ils sont capricieux. Et voilà, je préfère finalement essayer un CAP coiffure. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elles se rendent compte très rapidement. Et puis on a droit aussi, on est jeune, d'essayer de découvrir un métier. Mais ce que je veux dire souvent, c'est que la Guyane ne chôme pas non plus, il y a des besoins énormes et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Sauf qu'effectivement, non, la petite enfance, ça ne doit pas devenir une option B. Ben tiens, on ne sait pas quoi faire, ben on va à la petite enfance, non. Comme je disais, ce sont des petits bouts de choux, d'accord ? Ce sont des enfants, c'est l'avenir de demain. Et je pense que c'est important de savoir avec qui on va travailler et comment on doit travailler et surtout avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, parce que je dis souvent qu'il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience avec les enfants et beaucoup de pédagogie. Et ça nécessite que nous-mêmes, nous poursuivions nos formations, qu'on puisse être en capacité de se remettre en question aussi, d'analyser nos pratiques professionnelles, surtout les pratiques professionnelles, je pense que ça c'est vraiment indispensable, de manière à pouvoir encadrer et accompagner au mieux ces enfants qui nous sont confiés au quotidien. Donc pour revenir à votre question principale, le livre, il est vraiment, très sincèrement, il touche tous les âges. Tous les âges, futurs parents, grands-parents, futurs professionnels, et même les professionnels qui sont déjà dans le métier, qui, à travers la lecture, se retrouveront, et je pense que mes propos feront écho auprès d'eux.
Agnès Drago, dans ce livre, vous parlez de vous, hein, vous invitez le lecteur dans votre famille, dans votre intimité, oui. Vous vous exposez,
oui,
finalement.
Je m'expose un peu, tout à fait.
Puisque vous parlez de votre mère, le fait qu'elle vous ait encouragé dans vos études et les regrets également que vous avez du fait que cette même maman n'ait pas pu aller très loin dans ses études du fait qu'elle se soit mariée très jeune. C'est un clin d'œil que vous lui faites à travers cet ouvrage.
Oui, c'est un clin d'œil. Et puis, c'est également une manière pour moi de la remercier. Hein, elle a eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et c'est vrai que nous, on a grandi avec une maman qui était, voilà, qui était très rigoureuse. Les devoirs, c'était important. L'avenir était important. Il fallait qu'on puisse obtenir le bac. Il fallait qu'on puisse poursuivre nos études. Parce que, comme elle nous répétait souvent, elle n'a pas eu la chance, elle, de pouvoir poursuivre ses études. Elle a été maman très jeune. Elle s'est mariée très jeune. Hein. Maman a été mariée à 16 ans. Et c'est vrai que voilà, je souris parce que très souvent, enfin, je sais qu'elle nous a, voilà, parfois moi je lui disais, écoute maman, voilà moi le bac. Puis elle nous disait, ben on négocie, tu vas jusqu'au bac et puis après le bac, je te laisserai tranquille. Et puis quand on avait le bac, elle continuait à dire, tu sais, tu as passé un palier, tu peux le faire, il faut continuer. Et ça a été que ça. C'est-à-dire que ma mère elle a su comment le faire, mais elle a été intransigeante sur la question des études. Pour elle, c'était important. Et oui, c'est une façon de lui faire un clin d'œil et de lui dire, moi je dis souvent, merci maman de ne pas avoir lâché, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas non plus attachée territoriale, je n'aurais pas poursuivi et j'aurais peut-être pas été plus malheureuse. Hein. Mais ceci étant dit, voilà, ça m'a permis effectivement d'avoir cette force en moi et puis cette conviction effectivement qu'il faut se donner les moyens dans la vie, qu'il faut apprendre et qu'il n'y a pas d'âge et que finalement il faut y aller jusqu'au bout. Donc oui, c'est un clin d'œil à mes parents et notamment à ma maman, parce qu'à 7 ans je lui ai déclaré que je détestais Charlemagne et que je n'irais plus à l'école déjà. Oui. Vous voyez, 7 ans c'était précoce.
Exactement. Voilà. Et puis votre passage dans le sud de la France, oui, va beaucoup vous apporter, va vous permettre de mûrir en développant, en acquérant de la légitimité, en développant l'autorité, en osant également dire non. Ce sont là des aspects qu'il faut savoir mettre à profit et appliquer au contact des enfants, être légitime, avoir de l'autorité et parfois aussi oser hausser le ton et savoir dire non.
Oui, tout à fait. Alors j'ai envie de dire qu'effectivement, avec les enfants, de toute façon, d'ailleurs les enfants eux-mêmes ont besoin d'un cadre, c'est sécurisant, hein, les enfants ont besoin d'un cadre et de limites. Alors bien évidemment, ça se fait dans la bienveillance, mais les enfants sont très intelligents, vous savez. Un enfant à qui on dit non et à qui on pose et on lui explique les choses, on lui dit non, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu vas faire mal à un copain, ou tu n'as pas le droit de faire ça parce que ça ne se fait pas. Enfin voilà, il faut poser des mots aux actes et aux gestes, des explications aux enfants. Et ils comprennent parfaitement. Un enfant qui fait une bêtise, je vous assure que voilà, ils font bien la distinction. C'est-à-dire que 2 minutes après, ils sont dans vos bras parce qu'ils ont bien compris que vous les avez repris pour de bonnes raisons finalement. Et il faut savoir dire non. Et puis d'ailleurs, les enfants ont besoin parfois qu'on leur dise non. Ça, je crois que c'est universel. Et puis l'autorité, j'ai envie de dire, l'autorité elle est presque naturelle dans certaines situations. Du quotidien, les enfants, effectivement, il y a l'autorité des familles. Et puis quand les enfants sont au sein de nos structures, il y a cette autorité bienveillante et nécessaire qui va les accompagner justement dans la socialisation et leurs apprentissages. Après, le non, je l'ai acquis professionnellement. C'est pour ça que je dis que j'ai grandi avec toutes les équipes que j'ai eues à manager. Les équipes que j'ai découvertes, les équipes, parce que voilà, chaque agent est différent, chaque agent arrive avec sa propre histoire, et c'est là la complexité, parce que, comme je dis souvent, on ne manage pas des fiches de poste. Les fiches de poste, c'est très bien, on en a besoin d'ailleurs, mais face à nous, on n'a pas des fiches de poste. On a des individus qui arrivent avec, comme je disais, un vécu, avec des valeurs qui leur sont propres, avec une sensibilité, et il faut parvenir à doser tout ça, équilibrer les choses pour les faire adhérer à un projet commun qui est le bien-être des enfants qui sont accueillis à travers un projet qu'on va travailler ensemble. Et comme je dis souvent, alors c'est peut-être mon expression de Marseille, il faut que la bouillabaisse elle puisse prendre. Donc on met tous les ingrédients, tous les agents avec leur caractère, mais comme je leur dis, voilà, au final, on y va, c'est pour les enfants, on met tout ça en œuvre et on prend en compte effectivement les personnalités des unes ou des uns et des autres, mais il faut que la mayonnaise puisse prendre.
Alors vous, la professionnelle qui avait travaillé pendant de nombreuses années avec les enfants. Comment se positionner par rapport aux parents, puisque les enfants y passent la majeure partie du temps avec leurs parents, vous les voyez que pendant quelques heures. En termes de positionnement, d'éducation, est-ce que vous pouvez vous substituer? Est-ce qu'il faut se
Du
substituer?
tout.
Est-ce qu'il faut compléter? Comment se positionner?
En complète. Alors, très sincèrement, alors déjà, ce serait peut-être même plus l'inverse, c'est-à-dire que les enfants passent beaucoup d'heures avec nous, beaucoup plus hein, durant l'année. Les enfants sont là, souvent les parents travaillent, donc c'est parfois des journées pleines. Des enfants qui arrivent à 7h ou 8h et qui finissent à 17h, du lundi au vendredi. Et ils retrouvent les parents le week-end ou durant les petites vacances. Donc j'ai envie de vous dire que là, dans ce cadre-là, c'est même l'inverse. Les enfants sont avec nous de manière très importante. Et non, du tout pas, on ne se substitue pas aux parents. Nous sommes là pour, dans une triade, une relation professionnelle, parents, enfants, au milieu de ce projet. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner et certainement pas de prendre la place du parent, parce que déjà le parent, comme je disais tout à l'heure, a sa propre histoire. Dans un couple, on a un projet pour son enfant. Nous, on essaye de voir effectivement si ce projet-là de vie rentre également dans notre système à nous, parce qu'effectivement, on est dans une collectivité. Donc, il y a des choses qu'on peut prendre en compte pour accompagner les familles, puis des choses sur lesquelles on va leur dire, voilà, par contre, nous, on est en collectivité, ça, c'est possible, ça, ce n'est pas possible. Mais on essaye d'accompagner au mieux et au quotidien, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement à la parentalité, nos familles, justement, et sans jamais avoir cette prétention de les remplacer, parce qu'on ne les remplace pas du tout. On est avec eux, c'est un partenariat finalement. Voilà, durant le temps de passage de leur enfant, c'est-à-dire pendant une année, on est là pour, ensemble, accompagner au mieux leurs enfants par rapport au projet que nous, on a établi pour eux au sein de notre structure, avec, je dis bien, avec les familles.
Vous comptez combien d'années d'expérience, Agnès Drago, auprès des enfants?
Ben écoutez, j'ai commencé moi à travailler avec des enfants, alors de manière pas professionnelle, puisque comme je vous disais, c'était à côté pendant les études, mais dès que je pouvais, je gardais des enfants, donc j'ai commencé, j'avais 16 ans. De manière vraiment plus professionnelle, je dirais à partir de 18 ans, puisque 18 ans, 19 ans, 20 ans, puis ensuite en intégrant effectivement l'Institut Régional du Travail Social, voilà, là c'est devenu un peu plus, on va dire, sérieux, puis j'avais acquis beaucoup plus de, comment dirais-je,
De confiance en vous,
confiance en moi, et puis de psychologie notamment, parce qu'il faut savoir que nous avons un volet très très important d'heures de psychologie, et puis avec beaucoup d'ouvrages. Alors bien évidemment, c'est ce que je dis souvent aux étudiants qui arrivent, il y a la théorie, et puis il y a aussi la pratique. Et puis il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'effectivement, dans le dosage, parfois, effectivement, tout ce qui est écrit dans la théorie, et puis de plus en plus, ça devient complexe parce qu'il faut choisir nos théories, d'accord, par rapport aux pédagogies qu'on va mettre en œuvre. Mais il faut trouver cet équilibre entre la théorie, ce qu'on prend, comment on analyse, comment on va l'interpréter, et comment, ben, face aux réalités de terrain qu'on a, voilà, est-ce que cette théorie qu'on a pu apprendre rentre dans ce cadre-là? Et si ce n'est pas le cas, on ne va pas rester figé sur une théorie qui a été déterminée et qui en plus engloberait tous les enfants dans le même sac, dans le même packaging. Non, chaque enfant est différent. Donc il nous appartient à nous, professionnels, justement, d'ouvrir un petit peu nos connaissances et de pouvoir faire au mieux finalement, en prenant un peu en compte toutes ces pédagogies et en nous assurant qu'elles ont du sens, qu'elles ont de la valeur et qu'au moment où ça a été écrit, c'est encore d'actualité aujourd'hui.
Alors, on parle bien évidemment des enfants, puisque ça rejoint le titre de votre ouvrage « Touche pas à ma petite enfance ». Mais dans le livre, vous parlez également des relations quotidiennes que l'on peut avoir dans le cadre du travail avec ses collaborateurs, ses subordonnés. On a l'impression que pendant toutes ces années, rien ne vous a échappé, comme si vous aviez un bloc-notes avec vous et vous preniez, vous notiez le moindre détail.
Alors, je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé, sinon ce serait dans un monde parfait, mais disons que j'ai, de mes stages, de mes expériences, De ce que j'ai pu observer, je me suis un peu nourrie de tout ça, hein, de ce que j'ai pu voir durant les stages, des échanges que j'ai pu avoir avec les professionnels aussi, hein, puisque moi je sais que j'étais très curieuse, enfin je le suis toujours, et très souvent j'interrogeais les professionnels lors de mes stages en leur demandant, voilà, pourquoi ils avaient choisi de travailler auprès d'enfants. Est-ce que c'était un choix, est-ce que c'était une vocation, ou est-ce que c'était juste une curiosité, puis finalement elles sont restées, puis ça leur a plu. Et ça, dès le début de ma formation. Puis j'étais très touchée, sincèrement j'étais très touchée souvent des réponses que j'avais, parce que finalement, pour moi c'était tellement évident qu'on allait travailler dans ces métiers-là parce qu'on était passionné ou parce qu'on avait un intérêt. Puis j'ai eu des réponses qui étaient honnêtes de personnes travaillant en structure d'accueil, qui m'ont clairement dit qu'elles étaient rentrées parce qu'effectivement, il fallait payer des factures. C'est un secteur qui recrutait, il fallait payer les factures. Puis j'ai certaines personnes qui m'avaient dit à l'époque, moi je suis rentrée en pensant que je resterais 2-3 ans. Puis finalement, elles ont passé 20 ans. Et alors, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, hein. Elles se sont occupées des enfants. Mais finalement, moi, très tôt, je me suis interrogée sur cette question de l'épanouissement professionnel quand même. Parce qu'effectivement, oui, on a tous besoin d'un travail, hein, mais à ce moment-là, ça devient effectivement uniquement alimentaire, et ce que je respecte tout à fait, puisqu'on a tous effectivement des factures à payer. Mais je me dis que c'est triste quand même, c'est triste d'aller dans ces secteurs-là sans jugement. Mais finalement, à la limite, y rentrer comme ça, bon, on regarde un petit peu, on tâtonne, et puis partir avec le sentiment de ne pas avoir évolué. Moi, on m'a dit, voilà, nous, on a donné 20 ans, on ne nous a pas proposé de formation, on n'a pas pu monter en grade, on est resté sur le même profil. Et ça, ça m'a marqué, parce que je me suis dit, demain, si moi, je suis en poste de direction, ce ne sera pas parfait, mais je serai sensible à cette question de l'épanouissement des agents, de la montée en compétences, pour ceux qui le souhaitent. Et voilà, moi, dans mon idée, c'était, voilà, si demain, tu encadres du personnel, il faudrait que tu sois vigilante. Alors, bien sûr qu'il y aura des situations qui m'échapperont, mais de manière générale, le but, c'était d'être vigilante, de pouvoir accompagner les agents s'ils souhaitent faire autre chose, se réorienter. Voilà, moi j'ai des agents qui m'ont dit, Mme Drago, au bout de 5 ans, voilà, j'ai bien aimé ce que j'ai fait, mais là j'ai envie de faire quelque chose de plus administratif, de l'accueil. Je vais les accompagner, bien évidemment, et bien sûr qu'elles ont le droit à un moment donné d'avoir envie de faire autre chose. Moi, ce que je reproche, c'est éventuellement, ce serait le fait de rester. De rester, de ne plus être épanoui, et à la limite de ne plus prendre de plaisir, parce qu'un agent, un adulte qui ne prendrait pas de plaisir, très sincèrement, l'enfant, il le ressent également, hein. Vous avez un agent face à vous, vous êtes un petit bout de chou qui sourit jamais, qui parfois peut être dur dans les propos, ou éventuellement peut-être dans la manière de faire les choses, de dire les choses. Moi, je trouve ça très triste, et puis c'est ce que je dis, c'est peut-être le début d'une pente glissante, peut-être dangereuse, parce que quand on n'a plus la patience avec les enfants, on sait très, très bien qu'on peut... On peut tomber dans de la douce violence, et là je reste bien sur le terme douce, hein, violence, mais on peut aussi vraiment avoir des situations dramatiques. Là c'est la rentrée, je prends un petit exemple si je peux me permettre, c'est la rentrée. Comme chaque rentrée, j'ai sensibilisé mes agents. Alors on a des petits groupes WhatsApp, puis je les ai au quotidien, puis bien évidemment je leur mets souvent pendant le week-end, la veille, le vendredi, je leur dis voilà, c'est le week-end, faites ce que vous aimez, profitez-en pour vous... détendre, prenez soin de vous, faites de la lecture, faites ce que vous aimez, parce que c'est nécessaire dans nos métiers d'avoir un équilibre. D'accord ? En cas des tout-petits, il faut qu'on puisse se ressourcer. Et je crois que pas plus tard qu'hier, justement, j'en ai profité et je leur ai rappelé quand même. Hein, je leur ai rappelé qu'effectivement, la rentrée avait commencé, que c'était important également de parler des risques et de la prévention nécessaire, parce qu'on a choisi de faire des métiers sensibles, entre guillemets, et qu'il faut être vigilant sur la manière dont on va s'adresser aux enfants, sur la manière dont nos gestes, faire attention à ne pas être trop brusque, et pour ne pas tomber justement dans ce que j'appelle la douce violence, hein, auprès des enfants. Et puis, je leur ai quand même glissé, puisque c'est d'actualité, il n'y a pas très longtemps, sur une crèche de métropole, deux crèches d'une même chaîne. Deux salariés ont été, entre guillemets, ils ont été auditionnés parce que effectivement, on a fait remonter qu'elles avaient des attitudes maltraitantes auprès des enfants. Donc, pour moi, alors les agents me connaissent, hein, ça fait 7 ans que je travaille avec elles, mais pour moi, c'est vraiment les sensibiliser, leur dire, voilà, vous avez vu, ça peut aller très vite, il faut qu'on soit vigilant, travailler tout petit, et leur rappeler qu'on a une responsabilité civile et pénale. Et ça, c'est très important, parce que souvent, les personnes se disent, elles travaillent avec des enfants, elles changent les couches. Voilà, on fait vraiment ce métier-là, très sincèrement, pas pour la gloire et ni pour le salaire. Hein. J'insiste dessus. Parce qu'en plus de cela, on a une responsabilité civile et pénale qui est énorme. Mmh. Voilà.
Alors, il y a une partie qui est consacrée à votre parcours, une mini-biographie, je pourrais appeler ça ainsi, où c'est titré à propos de l'auteur. On découvre que vous êtes né à Paris le 29 août 1977, que vous êtes mère de 2 enfants et mariée. On peut... imaginez que vous êtes à mi-parcours de votre vie professionnelle. Pourquoi écrire ce livre maintenant? Pourquoi n'avez-vous pas attendu peut-être un peu plus tard? Vous auriez eu beaucoup plus de matière, non?
Alors, non, pas plus tard, parce que finalement, j'ai trouvé que c'était le moment idéal. Alors, à nouveau, je ne vais pas être originale, mais c'est vrai que voilà, ce temps de Covid, de pandémie, où on a tous été surpris, perturbés, qu'est-ce qui se passe, on est confinés. Alors au début, j'ai tourné un petit peu en rond, j'étais comme un lion en cage, parce que moi je suis dynamique, je suis habituée à... Et puis, au bout d'un moment, effectivement, j'ai dit à ma fille, après tout, effectivement, là je cours plus, voilà, je suis posée, je ne cours plus, parce que moi je suis quelqu'un de dynamique, je suis toujours dans des projets. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être le moment, puisque ça faisait quelques années que je me disais, je ne sais pas si je vais poursuivre, mais voilà, je me disais, ce serait bien de laisser une petite trace. Et comme je vous avais dit, dans un premier temps, pour moi, pour mes parents, pour mes proches, finalement, retracer un petit peu mon parcours et puis tout cet amour que j'ai eu et que j'ai encore pour les enfants. Et puis, cette période m'a permis, je me suis dit, j'écris et j'ai fait ce manuscrit. Donc, j'ai imprimé les pages, il y en avait 82. Et j'ai lu, j'ai relu, je l'ai fait lire à ma fille, à mon époux. Et puis, ils m'ont dit, du fil en aiguille, mais c'est vrai que c'est sympa. Mais vu que c'était mes proches, je me suis dit, ils sont peut-être un peu sympathiques. ils vont peut-être pas forcément être objectifs. Et puis, ils m'ont dit tout de suite, envoie-les à des maisons d'édition. Et entre-temps, on a repris nos fonctions, déconfinement. Et puis, j'ai laissé ce manuscrit dans un tiroir. Voilà, je l'ai laissé pratiquement 5 mois. Et puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas, après tout, je l'envoie et puis on verra bien. Et je pense que c'était le bon moment parce que, comme toute chose dans la vie, on se dit qu'on fera ci, on fera ça à tel moment. Et puis finalement, je suis peut-être un peu plus philosophe. Quand je vois ce qu'on vit depuis 2 ans, je me dis, finalement, c'est pas la peine d'attendre. On fait les choses. Voilà. J'ai eu le feeling, j'ai eu envie de le faire là. Donc, du coup, je me pose plus trop de questions. Ce confinement, finalement, il a quand même des conséquences, je pense, même sur notre façon de penser les choses, que ce soit sur le plan professionnel ou... Moi, je le vois. Hein, je sais qu'à un moment donné, j'étais très à cheval sur beaucoup de choses. Et puis, depuis cette pandémie, on souffle un peu, on prend le temps. Finalement, on fait les choses, mais on arrête de se mettre cette pression qu'on se mettait auparavant. On fait les choses sérieusement, mais la notion de temps, la notion de... Non, véritablement, je pense que je l'ai fait pour moi au bon moment. Voilà.
Est-ce qu'il y aura une séance ou des séances de signature à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni?
Écoutez, je l'espère. En tout cas, j'ai déjà été contactée pour la ville de Kourou. Alors, Kourou aussi, c'est une petite histoire parce que les 4 années où je suis rentrée en Guyane, j'ai vécu sur Kourou. Donc voilà, Kourou aussi, ville de cœur. Donc j'ai déjà été contactée pour pouvoir qu'on puisse organiser une séance de dédicace sur la commune de Kourou, également sur la commune de Rémy-en-Montjoly. Donc on attend un petit peu par rapport à la situation actuelle, situation sanitaire. Mais ce serait avec plaisir que, si les propositions sont là, que je viendrai effectivement parler à nouveau de cet ouvrage et dédicacer des livres. à cette occasion.
Touche pas à ma petite enfance, paru chez Libre d'écrire. L'ouvrage est disponible. Il est sorti quand ?
Alors, l'ouvrage, il est sorti, enfin, il a été publié en juillet. Pour la Guyane, je les ai reçus en août. Voilà, je les ai reçus en août et sur la métropole, ils sont déjà, ils ont été disponibles pratiquement immédiatement sur un site. Voilà.
Parfait. Ça se lit très facilement.
Très facilement.
Voilà, et, et ça peut vous aider que vous soyez parent, professionnel de la petite enfance ou tout simplement curieux. Curieux. Et sachant que ce sont des éléments, des connaissances qui pourront vous être utiles si vous n'avez pas encore d'enfant, quand vous en aurez. Et si vous en avez déjà, vous pourrez comparer l'éducation que vous leur avez donnée et les conseils et le témoignage de Madame Agnès Drago. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir été notre invitée. Cette interview est avec à retrouver plaisir. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, en vidéo et en radio, en multidiffusion sur Cayenne sur 107.6 et à Saint-Laurent-du-Maroni sur 89.2. Merci et à bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup.